Nova.
Nova.
Les grandes villes sont favorables à la distraction que nous appelons dérive.
Salut à tous, on part à la dérive avec le jeune chef d'orchestre Maxime Pascal, fondateur de l'ensemble Le Balcon.
La psychogéographie se proposerait l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, agissant directement sur le comportement affectif des individus.
À la dérive avec Maxime Pascal, on n'est pas dirigé à la baguette, mais on sait où on va. On commence par le début, devant le Conservatoire National Supérieur de Paris, et on termine, tous en chœur, avec les chanteurs de la garde républicaine. Au milieu du chemin, il y a des stades de foot suspendus au bord du périph qui dessinent un paysage fascinant. Chacun joue sa partie, solo ou collectif, c'est la symphonie du ballon rond qui danse au balcon. On a pris un taxi et on s'est retrouvé à l'église avec Saint Christophe, le patron des voyageurs, c'était pour nous. À la dérive avec Maxime Pascal, on apprend tout sur l'orchestre et on croise les lumières de Stockhausen, le foot, Louis de Funès, des voix d'hommes, des chevaux et même le diable.
À la dérive avec Aurélie Sfez.
Des premières journées, quand je suis arrivé à Paris, à 1951, en entrant au conservatoire, il y avait un homme qui hurlait des noms. Je voulais participer au cours de mes siens. Et j'étais dans le couloir comme tous les autres. À la fin, j'avais pas entendu mon nom. J'étais tout seul dans le couloir. Je ne pouvais pas parler le français. Je l'avais appris après. Et je demandais l'homme, « Mais écoutez, monsieur, vous ne m'avez pas appelé. Tous les autres sont partis. » Il disait, « Mais bien, oui. » Et il me montrait un papier avec tous les noms. J'ai gardé. Alors, il y avait mon nom, Stockhausen. Il disait, « Mais j'ai hurlé ce nom 10 fois de suite. » Je disais, « Stockhausen. » Alors, je n'avais pas compris, Stockhausen, que c'était moi.
Je sors du métro, Porte de Pantin, et j'ai rendez-vous avec Maxime Pascal, qui est chef d'orchestre et qui a monté l'ensemble Le Balcon. En face de moi, le Conservatoire National Supérieur de Paris. On est au bout du 19e. La Cité de la Musique, un peu plus loin, la Philharmonie, le Parc de la Villette.
Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va?
C'est quoi ce petit accent du sud?
Vous m'avez grillé direct là.
Bah oui,
je viens du sud effectivement.
De quel sud? Sud-ouest? Carcassonne, je viens de... Toulouse.
Exactement, je viens de Carcassonne. Dans le Midi. Mais on s'est même pas fait la bise. On se fait la bise ou?
On se fait la bise à Carcassonne.
Bah ouais.
On en fait deux.
Allez.
Il y a quoi dans votre valise?
J'ai toutes mes partitions dans ma valise. Il y en a beaucoup. C'est très lourd, donc voilà, j'ai ça dans mon bagage.
Et alors, vous m'avez donné rendez-vous ici.
Eh oui.
C'est là où tout a commencé, quand même, un peu.
Oui, alors effectivement, en fait, là, on est à la Porte de Pantin, qui est un endroit assez important pour la musique à Paris. Vous avez ici le Conservatoire de Paris.
En travaux, toujours.
Toujours en travaux, depuis son ouverture. Hein, donc, vous avez juste en face, donc là, on est sur la place de la Fontaine aux Lions, la Philharmonie de Paris, le Musée de la Musique, le Zénith juste derrière, le parc, et derrière le parc, il y a même le Cabaret Sauvage. Enfin, il y a tout un tas de lieux importants pour la musique ici.
On est à la croisée des chemins de la musique.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'il y a de fou, en fait, quand on rentre au Conservatoire de Paris. Plus que même son enseignement, je dirais. Mais c'est, en fait, le fait que tous les étudiants sont vraiment massés dans cette zone. Tous habitent ici, travaillent ici. En fait, le 19e arrondissement à Paris joue un rôle vraiment tout particulier pour la musique. La musique écrite, quoi, la musique qui s'enseigne dans le conservatoire.
Bah, ce qui est bien, parce que ce n'est pas les quartiers les plus huppés, proches du périphérique et proches des quartiers qu'on appelle les quartiers politiques maintenant, enfin ce qui sont les banlieues en langage normal. Moi, je trouve ça intéressant que justement ce pôle musical ait été placé ici.
C'est exactement ça. En fait, quand la Philharmonie s'est ouverte, les concerts de musique symphonique de l'Orchestre de Paris notamment étaient donnés à la salle Pleyel.
Et la salle Pleyel est devenue une salle de variété, on va dire.
Voilà, exactement.
Musical.
Exactement. Et donc, il a été choisi de placer la Philharmonie ici, je crois, de par le fait qu'elle est complètement ouverte sur le nord-est de Paris. Ce qui marche bien, c'est qu'il y a des gens de partout. Enfin, les concerts sont toujours pleins et notamment, ils arrivent à avoir un rayonnement qui se fait bien au-delà de Paris, bien au nord-est de Paris. Alors moi j'ai étudié beaucoup de choses ici, j'étais dans les classes de ce qu'on appelle les classes d'érudition. Donc, alors c'est pas si chic parce que c'est un peu les trucs un peu de loser quand on est au conservatoire parce que c'est les trucs qui sont pas du tout à la mode. On apprend l'analyse musicale, l'écriture musicale, tout un tas de l'orchestration. C'est un peu un truc de geek en fait.
L'ancienne.
Ouais, c'est vraiment les geeks de l'école qui font ces classes là.
Musicologie appliquée.
Voilà, exactement. Moi je faisais ça. Moi je suis vraiment issu de ça.
Il y a une fraternité entre vous? Où il y a une concurrence.
L'instrument c'est différent parce qu'il y a le système éducatif est construit sur la compétition. Les musiciens passent toute leur jeunesse, de leur enfance à leur vie professionnelle, ils passent des concours tout le temps, ils font des compétitions tout le temps parce que c'est comme ça qu'on considère qu'on construit l'excellence musicale.
Vous êtes d'accord avec ça, avec le principe des concours ?
Non, moi je trouve que la musique a rien à voir avec la compétition. En revanche, aujourd'hui, c'est la manière qu'on a trouvé de construire l'excellence instrumentale. Est-ce qu'on peut la construire différemment ? Sûrement.
Donc, j'ai écouté un reportage l'autre jour sur le dopage des musiciens classiques. Alors on connaît ça chez les sportifs, chez les musiciens classiques c'est un peu tabou parce qu'on est censé représenter quand même une certaine éducation et puis une certaine pureté dans la manière de pratiquer. Oui. Et donc dans ce reportage, il racontait qu'il y avait beaucoup de musiciens classiques, des instrumentistes notamment, pour passer les concours, qui se shootaient au bêta-bloquant et qui se refilaient les plans comme ça. Et à la fin, ils devenaient complètement accros.
Ça existe, c'est sûr. Moi, je ne connais pas de personnes qui... en tout cas, j'en ai jamais parlé de ça, j'ai jamais parlé de ce sujet-là. Donc, toute cette compétition qui rythme la vie du musicien, c'est une source de stress incroyable. L'instrument, ça requiert une grande maîtrise de ses muscles. Et en fait, pour avoir la maîtrise de son corps et de ses muscles dans ces cas-là, c'est très compliqué. Donc je comprends bien qu'il y a des gens, ceux qui sont vraiment sujets au stress, qui puissent avoir pris des trucs comme ça. Ça m'étonne pas du tout, en tout cas.
Nova.
Vous avez le trac ?
Alors moi, j'ai la chance de pas avoir le trac. Alors,
il paraît qu'il faut l'avoir.
Voilà, il paraît qu'il faut l'avoir et que
si on l'a pas, on est un nul.
Voilà, exactement. Il paraît que si on a pas le trac, c'est qu'on est pas bon. Alors, peut-être que je suis pas bon, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas le trac au sens où j'ai pas peur.
L'adrénaline.
Ouais, ça oui. En fait, je suis hyper excité, je suis hyper concentré. Enfin, voilà, ça doit être l'expression de mon trac. J'espère en tout cas que c'est ça. Mais j'ai pas peur en tout cas.
Bon, vu qu'on est à la dérive.
Ouais.
Vous aimez bien ce titre ?
À la dérive ?
Ouais.
Ah bah oui, complètement. Est-ce que je suis à la dérive ? Je sais dans quelle direction je vais. Alors est-ce que quand on est à la dérive, on sait dans quelle direction on va ?
On se laisse porter par le courant.
En revanche, pour ce qui est de suivre les sensations des gens, d'être à l'écoute du moment, d'être à l'écoute des réactions des gens qui nous entourent, de son environnement, ça oui. Je pense que par exemple, être à la dérive, ça pourrait être une bonne analogie d'être en phase avec son environnement par exemple. Vous voyez ?
Ça peut être dérivé musicalement aussi, dérivé sur une partition, ouais. Une forme de composition. Boulez a un morceau qui s'appelle Dérive.
Dérive, ouais, tout à fait. Il y a Dérive 1 et Dérive 2 d'ailleurs. Ouais. Il y a beaucoup de pièces d'ailleurs qui s'appellent, ouais, qui s'appellent comme ça. En fait, être à la dérive, il y a l'idée d'être plus à l'écoute du chemin que de l'endroit où on va. Et je pense que c'est ça qui inspire beaucoup les artistes en fait.
On va dériver où maintenant, Maxime Pascal ? Vous avez choisi des lieux.
Écoutez, il y a un lieu qui n'est pas loin d'ici. C'est les terrains de foot qui sont juste là-bas. Ça s'appelle l'Adoumeg, juste derrière le périphérique en fait. Là. Donc là, on est tout près du périphérique. Alors moi, il y a cette tour qui me fascine complètement.
L'essor, là, voilà. C'est là où il y a écrit essor, voilà, qui est toute voilà. Cuivrée.
Voilà, ceux qui connaissent la porte de Pantin, je pense, la connaissent bien. Il y a une tour incroyable. Complètement cuivré.
On va dire un bloc de Tetris.
Ouais, c'est ça. Et cette tour-là, je l'aime vraiment beaucoup.
C'est rythmique comme paysage, quand même.
Moi, je me sens hyper bien dans ce type d'environnement. Moi, le truc, c'est que j'ai grandi à la campagne, en fait, dans la forêt. Et donc, quand je suis arrivé à Paris, le fait d'avoir grandi à l'air libre, dans la nature, moi, je me suis senti hyper bien dans ce monde-là.
En tout cas, c'est sonore, ça, il y a de la vie.
Mais en fait, c'est ça.
Ça circule à fond.
En fait, c'est ça aussi. Il y a toujours beaucoup de gens qui passent. Il y a beaucoup de voitures. Le soir, c'est complètement. Toutes les voitures sont encastrées les unes dans les autres. Là, ici, là, c'est.
Le stade de foot, il est là.
C'est ça.
On est à Pantin.
Ouais, là, on est à Pantin. Je sais plus par où on rentre en fait pour. Ouais, c'est ça.
Donc vous alliez jouer au foot ici ? Vous êtes joueur de foot, Maxime Pascal ?
Alors voilà, déjà je jouais quand j'étais au conservatoire, parce qu'on avait l'équipe du conservatoire de Paris. Quand je vois un terrain, j'ai une espèce d'émotion hyper forte. En fait, j'ai envie d'y aller.
Attiré ?
Ouais, complètement. Je pense que j'ai une sensation d'enfant. J'ai des sensations fortes d'enfant liées au terrain de foot, mais enfin moi c'est l'espace du terrain qui me fascine complètement.
C'est hyper poétique, ce serait comme un tableau vivant, et on a l'impression que c'est essentiel pour les gamins qui jouent au foot d'être là à ce moment-là.
Le truc de l'espace du terrain, c'est que quand on le voit, il y a cette idée que l'espace est grand et il est loin. C'est la même chose que la sensation du souvenir. C'est quelque chose de loin dans le temps et c'est quelque chose de grand. La sensation qu'on a quand on est la nuit dans la ville et qu'on voit ces intérieurs avec les gens qui dînent. On voit ces espèces de lumières orange, d'intérieur orange, d'intimité. Et nous, on est à l'extérieur et il fait nuit. Et cette opposition, cette espèce de sensation d'espace lointain. Et ça, c'est complètement incroyable, hein, comme sensation. Et moi, je ressens exactement ça avec les terrains de foot, en fait.
Gymnase là qui ressemble à une soucoupe volante.
Ouais, ouais.
Un truc de Goldorak.
Donc voilà, moi je viens ici pour jouer et.
Vous jouez au foot alors ?
Et je joue au foot, ouais.
Alors moi je vais faire des analogies avec l'orchestre. Hein.
Ouais.
Et là, on regarde les mecs qui jouent au foot et je me dis, une équipe de foot, ça pourrait être comme un orchestre. Il y a des solistes, ou en tout cas un premier violon qui pourrait être Zinedine Zidane. Hein.
Le créateur,
enfin, celui qui fait son petit solo.
En fait, ouais.
Vous, le chef d'orchestre, vous êtes quoi, l'entraîneur ?
Ah, ça c'est complexe comme question.
Et les autres joueurs autour, les violons, les violoncelles, les vents, tout dépend où on se place. Le chœur, c'est le public. Le chœur, c'est les supporters.
En fait, chacun doit vraiment faire du mieux qu'il a à faire.
Ça joue, allez.
En fait, ce qu'on produit, c'est collectif. Donc là, effectivement, il y a un équilibre entre les deux qu'on trouve en musique. Et là, ça c'est évident.
Vas-y, dépêche-toi.
Sur la question du chef d'orchestre, il est un peu à mi-chemin entre l'entraîneur, le...
Bonne défense, c'est bon.
Le numéro 10, mais... Mais en même temps, ça lui donnerait une importance qu'il a moins en musique, au sens où le chef d'orchestre l'orchestre est au service des artistes, au service des instrumentistes. Il doit les aider à réaliser, il doit, son rôle c'est ça, il doit les aider à jouer du mieux possible. Moi j'ai un ami avec lequel je joue beaucoup au foot, qui est musicien. Moi je joue beaucoup avec les musiciens, et il y en a un qui est un très bon musicien, un très beau footballeur. Il dit la musique et le foot c'est pareil, on joue comme on est. On peut pas tricher en musique comme on peut pas tricher au foot. Peut-être qu'il y a ça aussi, il y a une espèce de vérité de soi en musique. Et c'est beau parce que quand j'écoute jouer les gens, on voit ce qu'ils sont en fait, ce qu'ils ont dans leur monde intérieur.
Et vous, alors vous dirigez comme ça ?
Oui.
Bien, super, super.
Comment vous pouvez vous décrire quand vous dirigez ? Vous êtes comment quand vous dirigez ?
Ça prend du temps pour un chef d'orchestre de comprendre ce qu'il est et de comprendre ce qu'il fait en fait, parce que comme je disais, on se situe à mi-chemin entre l'analyse et l'émotion.
Vous êtes très expressif avec le corps.
Alors peut-être ça, le truc c'est que le chef d'orchestre il contrôle pas ses gestes, il entend la musique, donc il entend quelque chose dans sa tête, et les instrumentistes le lisent sur son corps. Ils lisent sur le chef d'orchestre parce comme ils lisent sur une partition, ouais. En fait, au moment où il va falloir écouter une suspension, où il faut que tout l'orchestre ou tous les artistes et tout le public soient suspendus à une note, ça je vais pas faire ah, attention, ça c'est le geste de la suspension, ça n'existe pas en fait. La manière dont je vais être à ce moment là les gens vont voir sur mon visage, vont voir dans mes mains ce qu'il y a de beau dans cette musique, ce que cette analyse, cette connaissance de l'œuvre, elle a évoqué de manière hyper profonde en moi. Ce mélange là va se traduire sur le corps.
Alors là aussi, on voit des gestes. Là, c'est de la chorégraphie. Alors, de tous ces joueurs de foot, là, ça...
Bah, en fait, c'est-à-dire que
on voit... danse, quoi.
Ouais, on voit les joueurs jouer avec l'espace, les lois de la physique, en fait, avec les éléments naturels et l'espace.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme musique sur ce paysage ? Là, on regarde les joueurs de foot par petits groupes, des fois tous ensemble, des maillots bleus, des maillots jaunes, des shorts roses... des casquettes.
On mettrait une symphonie de Shostakovich alors.
Ah bon ?
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que Shostakovich, déjà lui, était complètement fan de football. Je pense que c'était un des compositeurs qui était le plus fan de ça. Il voyait vraiment dans le foot ce que lui a cherché à développer dans ses symphonies, c'est-à-dire un déroulé hyper dramatique. C'est-à-dire que chaque événement joue un rôle hyper dramatique dans le déroulé temporel.
Et laquelle alors ? Quelle symphonie ?
Peut-être la 8e, voilà.
Et quel mouvement ?
Bah le premier mouvement de la 8e symphonie.
Nova.
Ah si, il y a faute.
C'est pour Radio Nova.
Radio Nova. Ah ouais, on joue au foot ici, on est vraiment content et voilà, on marque des buts.
Vous marquez plein de buts.
La reportrice ou la reporter, comment on appelle ?
Reporter.
Reporter, donc.
La reportrice, c'est sympa.
C'est sympa, bah voilà, donc elle a marqué un joli but, voilà quoi. Et ça compte double, hein. Voilà, pour se faire plaisir, on vient juste pour s'amuser et tout.
C'est génial, c'est beau à voir, j'adore ce lieu. Hein.
C'est joli, ouais. C'est sympa, voilà. Les gens sont sympathiques.
Une équipe de foot, c'est comme une petite société, quoi.
Il y a des individualités, mais c'est plus le collectif. On joue les uns avec les autres. Chaque équipe joue avec ses partenaires, donc c'est ça, quoi. C'est les jeux collectifs.
Et on joue, est-ce qu'on joue comme quand on est enfant, quand on jouait au ballon, quand on était enfant ?
Il y a le souvenir de ça. Même si quand on est enfant, on est beaucoup plus impliqué. Là, c'est juste, on s'amuse, c'est tout.
Vous jouiez où quand vous étiez petit?
Moi, j'étais au pays, j'étais chez moi au Sénégal. Et je jouais avec mes amis et tout. On n'avait pas de terrain, mais c'est le terrain sable, des trucs comme ça. Mais c'est amusant, c'est, Voilà, j'ai trouvé que c'est charmant, quoi.
Eh ben merci.
Ben merci.
Votre prénom, c'est quoi?
Ben Singala. C'est votre prénom, c'est quoi?
Moi, mon prénom, c'est Aurélie.
Aurélie, ah, chantez Aurélie.
Merci à
vous. Au revoir.
J'ai enregistré l'entraîneur.
Ouais.
Il leur gueule bien dessus. Hein.
Ah, ça c'est bien.
Vous, ouais. Vous y allez aussi comme ça? Vous leur dites, bande de feignasses, bougez-vous?
Non, non, moi je suis gentil. On a vécu pendant longtemps avec des générations de chefs qui étaient...
tyranniques.
Sortez! Je ne veux personne dans la salle lorsque je travaille!
Ouais, parce que on avait une approche très très verticale de l'orchestre, très très hiérarchique.
Alors reprenons. On dit 7, hop!
Et aujourd'hui, ça change un peu... Depuis 10-15 ans,
vous, c'était bien là-bas.
Les technologies de l'information et les connaissances liées à la manière d'interpréter les répertoires font que les musiciens d'orchestre ont un savoir beaucoup, beaucoup plus grand qu'avant. Et on n'est plus du tout dans le cas où le chef d'orchestre... franchement, il y a encore 10-15 ans, un chef d'orchestre pouvait arriver devant un orchestre et être le seul à savoir comment il fallait interpréter un truc, comment une œuvre devait se jouer... Et donc, il y avait effectivement une verticalité parce qu'il avait un savoir qu'il devait transmettre aux musiciens et donc leur dire, voilà, il faut jouer comme ça, il faut jouer comme ci.
Non, monsieur. Écoutez, j'ai une conception personnelle de l'ouvrage. Ce n'est pas assez triomphant, je n'ai pas assez orgueilleux, de l'orgueil, mon sang. Bon sang. Enfin, c'est de la bouillie, tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Alors...
Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les musiciens sont très, très informés. Qui savent comment on doit interpréter n'importe quel type de musique de n'importe quelle période avec, avec quel instrument, de quelle manière. Et le chef d'orchestre a un rôle très différent, il n'est plus du tout...
Dans ce rôle de sachant absolu
Pas du tout. Donc on est dans un rapport, on est en train de rentrer dans un rapport beaucoup plus horizontal. Oui, moi j'essaye de vraiment amorcer cette... cette transition, mais qui a déjà démarré depuis un moment. Voilà, les chefs de la nouvelle génération sont comme ça, pour la plupart. Donc je ne crie pas sur les gens. Je suis gentil.
Sortez! Je ne veux que Berlioz et moi! Voilà!
On va aller ailleurs. On va quitter le stade. Et on va aller à l'église.
Bon, ben voilà.
Une autre forme de stade.
On prend un taxi, c'est ça?
On prend un taxi. Et ouais. Écoutez, moi je sais pas, je vous suis.
Si, hein.
Allez.
C'est moi qui vous dirige.
Et ben voilà, dirigez-moi.
Vous aimez bien être dirigé d'ailleurs?
Pourquoi je fais ce métier-là? Pas parce que j'ai envie de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, hein, c'est pas ça. En fait, moi je fais ça parce que depuis que je suis sorti de l'adolescence, j'avais envie de voir, d'entendre la musique jouée d'une certaine manière. J'avais vraiment envie d'entendre quelque chose de spécifique, de voir un certain type de spectacle. Et donc, je suis devenu chef d'orchestre parce que c'était la seule manière pour moi d'entendre la musique de la manière qui était à l'intérieur de moi, en fait.
J'ai écouté votre symphonie fantastique de Berlioz, mais la vôtre, votre interprétation de la symphonie fantastique, une interprétation foxtrot, jazz, opérette.
Alors oui, tout à fait. Alors là, déjà, c'est...
Vous l'avez entendu en jazz, quoi.
En fait, c'est pas tout à fait moi qui l'ai revisité, puisque c'est Arthur Lavandier qui est compositeur et c'est lui qui a réalisé cette version-là. Oui, là, elle est complètement folle. Déjà, il y a des
complètement folle dingue.
Les instruments comme les synthétiseurs, la guitare électrique,
la batterie.
Il y a du cor des Alpes aussi, qui est un instrument incroyable. Disons que ce qu'on entend dans notre symphonie fantastique, c'est pas tout à fait que moi j'avais dans la tête. Mais plutôt ce que moi j'avais dans la tête, c'était vraiment que ce type d'enregistrement-là, ce type de travail-là puisse
avec
exister.
Avec ce type d'instrument,
exactement.
Cette fusion-là, en
que
fait.
Ça, que
les
ça,
nouvelles technologies.
Voilà, cette virtualité-là, c'est le fait que ça puisse exister.
Là.
En route. Hein.
Et on va à la messe.
Ah mais d'ailleurs, il y a peut-être la messe en fait.
Bah,
là.
Oui, c'est dimanche. Hein.
D'accord.
Radio Nova.
Ok, bah bien sûr.
Ah, vous enregistrez là?
Ouais.
D'accord. Vous avez une adresse déjà? Vous allez dans le 19e?
Ouais, c'est où? 6 places de
The Beach.
The Beach?
Oui.
Tout un programme.
Mais d'ailleurs, je sais même pas qui c'est Beach.
Alors attendez, qu'est-ce que vous écoutez là?
Là, c'est Radio Classique. Ouais. J'aime bien Radio Classique. Hein. C'est relaxant. C'est une musique qu'on peut écouter et réfléchir en même temps.
Pour vous, la musique classique, c'est un peu comme un spa, quoi.
Oui, oui, exactement. Ouais, ouais. On vit dans une société tellement violente et stressante que j'ai besoin de ça pour me détendre, en fait.
Votre prénom, c'est quoi, monsieur ?
Saïd.
Saïd, Aurélie, Maxime.
Bienvenue. Bienvenue à bord.
Je vous fais un petit blind test, Maxime Pascal.
Ben, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est du Brahms, mais...
Le marque là. Ouais. Normalement, c'est... Ah bah, Brahms.
Ouais, alors, je savais pas ce que...
Vous l'avez vu,
Tricia. Non, je l'ai pas vu. Et je me suis dit, oh là là, elle va me demander ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Et j'ai dit que c'est du Brahms. J'ai dit, je pense que c'est du Brahms, mais vraiment, je me suis jeté à l'eau. Hein, et j'avais pas vu, hein, vraiment.
Bien vu, hein, bravo. Ouais. Hein.
Ah, il est fort, hein.
Ah, vous êtes fort. Ouais. Vous avez même pas réfléchi, vous. Tout de suite, vous avez trouvé. J'entends.
Quoi, c'est Brahms? À quoi vous avez reconnu que c'était Brahms?
C'est des gestes très brahmsiens, là, les espèces de vagues comme ça, en tierce, c'est tout. Voilà, c'est.
Nova. À la dérive, avec Aurélie Sfèze.
Et avec le chef d'orchestre Maxime Pascal, on a continué notre dérive en écoutant Brahms dans le taxi. Il a 33 ans et il rêve d'un orchestre qui évolue avec son temps. Avec son ensemble Le Balcon, on joue du Berlioz avec des cordes et une batterie, des cuivres et une guitare électrique, la symphonie est fantastique et amplifiée. En ce moment, il répète à fond les ballons un des opéras du cycle Liszt, une œuvre monumentale et mystique composée par Stockhausen, maître allemand des musiques mixtes, de l'électronique, de l'orchestre, du cosmique. À la dérive, ça continue, direction l'église, rendez-vous au point d'orgue.
Saïd, votre compositeur préféré, c'est qui ?
Ah, je connais Mozart, Chopin, Brahms, ouais. Mais je suis incapable, comme votre ami, là, de reconnaître...
Là, on entend le quatuor à rhodes. C'est un très jeune quatuor extraordinaire que je connais bien et c'est vraiment fou. Mais le quatuor, en plus, les gens vivent tout le temps ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont toute la journée tous ensemble. L'orchestre, bon, on est un peu plus. Mais là, le quatuor, ils sont toute la journée ensemble à 20 cm les uns des autres. C'est vraiment.
Le polyamour.
Exactement.
Saïd, si on vous donnait une baguette magique et on vous dit « je vous fais musicien », vous choisissez quel instrument ?
La flûte.
Ah, la flûte !
Ouais.
Bon choix !
J'ai joué ça quand j'étais petit. Bah, c'est mon instrument préféré. Je l'ai fait quand j'étais petit. J'aime bien.
Ouais. Ah, mais la flûte à bec au collège, c'est quand même tout un tas de souvenirs merveilleux.
Moi, j'ai pas fait la flûte à bec au collège. En fait, moi, ma professeure de musique dans mon collège, c'était ma maman. Elle faisait pas la flûte.
Elle vous mettait des bonnes notes ?
Oui, bah oui, c'est normal, parce que j'étais son fils, donc elle me mettait des bonnes notes.
Parce que vous étiez bon aussi, vu que vous étiez son fils.
Non. Eh ben, on saura jamais.
Ah ouais.
On peut pas savoir.
Quel pistonnet, pistonnet du collège. Mais alors, vous avez fait du violon, vous, quand vous étiez petit ?
Ouais.
Enfin, vous êtes violoniste, en fait, ouais. En vrai.
Tout à fait.
Pas du tout de piano, un petit peu ?
Si, j'ai fait du piano, de la batterie. Bon, je fais plein de choses, mais j'ai fait surtout du violon. Et c'est mon instrument principal.
Qu'est-ce qu'on dit du violon ? Moi, j'aime bien faire de la sociologie des instruments. On dit qu'il y a des instruments rois, le piano, le violon, qu'il y a des instruments, par exemple, les cuivres sont en général les instruments plus bonhommes, très masculins. Les cuivres venaient du nord de la France parce qu'il y a beaucoup d'harmonie, de fanfare dans les villages. Moi, je trouve que les clarinettistes sont sympas, je ne sais pas pourquoi. Et qu'est-ce qu'on dit des violonistes ?
Moi, je trouve que c'est l'instrument. Je trouve que c'est vraiment un des instruments les plus difficiles parce que c'est un. En fait, il y a une concurrence énorme du coup, donc c'est très très dur. Et on travaille dans des espaces tout petits au violon, donc vous voyez, les doigts doivent bouger sur des espaces vraiment infimes. Et je suis toujours très impressionné parce que je trouve que l'instrument est hyper hyper dur et donc.
Ça voudrait dire quoi ? Que les violonistes sont besogneux, exigeants, presque un peu fous ?
Bah, je pense que ouais, pour pratiquer le violon à haut niveau, il faut avoir une grande abnégation, je crois.
On voit l'église en face.
On est au bord du canal de l'Ourcq déjà. Hop, alors on va se ranger parce qu'on est quand même. On est surtout ouais. En plein milieu de la rue. Donc on va déjà se mettre sur le trottoir.
On va écraser dans cette rue.
On est venu voir cette église, l'église Saint-Jacques-Saint-Christophe.
C'est lié à l'opéra, à l'œuvre ouais, que vous êtes en train de
exactement.
Monter.
Exactement. C'est pas une église que je connais depuis très longtemps, parce que je l'ai découverte tout récemment. Mais c'est une église dans laquelle je suis en train de travailler, puisque je suis en train de concevoir un spectacle dans cette église.
Qui s'appelle donc, Samstag auf Licht.
Alors, Samstag auf Licht, samedi de lumière en allemand. En fait, il y a une partie du spectacle qui est à la Philharmonie de Paris, où on était tout à l'heure. Et à la fin du spectacle, le public doit sortir de la salle et on va faire venir les 1000 personnes qui seront dans la salle. On va les déplacer et les amener ici
à pied.
À pied, tout à fait.
Vous allez faire une dérive.
Voilà, on va faire une grande émission, à la dérive avec tout le public
mais
l'amener ici dans l'église.
Vous allez drainer 1000 personnes jusqu'ici.
Exactement.
C'est énorme, c'est génial.
Ouais, on va faire une grande procession sympa là jusqu'à l'église. Ça
et
va
la
être très, très bien.
Il va y avoir quoi? Des gens avec des costumes et tout?
Eh ben, on ne sait pas encore. On est en train d'organiser le passage, mais en tout cas, on va amener tout le monde ici.
L'œuvre que vous êtes en train de faire, l'œuvre dont vous me parlez, voilà. C'est une œuvre de Stockhausen.
Tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas trop Stockhausen, c'est un compositeur allemand complètement incroyable. Un de mes compositeurs préférés. Et qui a écrit pendant 30 ans un cycle d'opéra, un cycle de 7 opéras. Le cycle s'appelle Licht, ça veut dire lumière. C'est le plus grand cycle d'opéra jamais écrit. Ça dure 29 heures en tout. Et c'est
il
plus...
a déjà été donné en intégrale, 29
ça
heures
n'a, ça n'a jamais été donné dans son... En fait, tous les opéras, les 7 opéras ont été créés, mais le cycle n'a jamais été donné dans sa continuité, disons. Les opéras de Stockhausen sont des opéras complètement cosmiques et massifs avec énormément de choses. Vous connaissez peut-être ce qu'il y a de plus connu dans ces opéras, c'est le quatuor des hélicoptères. On parle souvent du quatuor des hélicoptères de Stockhausen. On a un quatuor à cornes et en fait chaque instrumentiste est dans un hélicoptère et les quatre hélicoptères tournent autour du public comme ça, c'est diffusé en live.
L'œuvre est une œuvre ouverte, pas d'histoire qui va d'un début jusqu'à un certain fin, fatal ou optimistique. C'est un organisme dans lequel chaque événement compte ou rien.
Et l'autre aspect vraiment incroyable de ces opéras, c'est que les personnages ne sont pas incarnés, comme c'est le cas traditionnellement à l'opéra, par les chanteurs. Là, ce sont les instrumentistes et les danseurs. Il y a aussi des chanteurs, mais ce sont les instrumentistes qui font l'action. Ils sont costumés, ils jouent tout par cœur. On a un rôle de trompettiste incroyable, un rôle de corps de bassesse, une espèce de grande clarinette, un rôle de flûte. On a toute une scène jouée à la flûte comme ça. Et donc Stockhausen a fait vraiment complètement exploser le genre opéra à partir des années 80 en faisant une espèce de genre à mi-chemin entre l'opéra traditionnel, le cirque, le théâtre musical. Il y a un aspect rituel et mystique très fort dans ces opéras. Et donc le Samstag aus Licht, le samedi de lumière, c'est l'opéra qui raconte l'histoire d'un des personnages principaux de son cycle, qui est Lucifer. Et les adieux de Lucifer vont avoir lieu ici dans cette église.
On rentre ?
Allez, c'est parti. Peut-être qu'il y a la messe, hein, là, on va voir. Hein. Ça vous fait pas peur de rentrer pendant la messe ?
Ça vous fait peur, vous, de rentrer pendant la messe ?
Il faut pas faire de bruit, juste.
On va chuchoter.
Il n'y a personne, donc on est
peinard.
Voilà. Il ne faut pas parler trop fort quand même, mais voilà, donc on y est. Stockhausen a conçu cette pièce qui est pour 39 chanteurs, mais 39 hommes. Il y a 13 ténors et 26 basses qui sont habillés en moines franciscains. Ils ont des robes noires, marron. Ils ont des sabots aux pieds et ils font cette cérémonie franciscaine où ils chantent les hymnes à la vertu de Saint François pour nous libérer de Satan et des tentations. Qu'on a les chanteurs qui sont tout autour du public dans leur robe. Ils ont des sabots, donc il y a toute une partition musicale écrite pour les sabots des chanteurs. Et il y a en fait aussi un orgue, donc on utilise l'orgue de l'église qui est là-haut, et il y a 7 trombones qui sont là-haut, qui font des accords un peu démoniaques. Et sur l'autel, il y a un oiseau sauvage dans une cage, et cet oiseau va être libéré. Le public sort aussi, tout le monde va se réunir sur le parvis, là où on était dehors, et on fait sonner les cloches de l'église, et on va libérer l'oiseau. En général, on utilise un oiseau qui a été blessé, qui est dans un refuge, qui a été soigné, et qu'on doit
relibérer.
Voilà, qu'on doit remettre en liberté.
Vous libérez un véritable oiseau.
Voilà, et on profite donc du fait qu'il doit être libéré pour le remettre en liberté à cette occasion.
Et alors j'ai une question, puisque on a l'orgue en face et que on parle du diable et que vous disiez à l'instant que on utilisait des accords diaboliques. Il y a cette fameuse histoire du Diabolus in Musica,
ouais.
Le fameux intervalle interdit, qu'on appelle aussi le triton, qui peut être fa si bécard si on prend l'intervalle. Et c'était un intervalle interdit au Moyen Âge parce que c'était l'intervalle du diable, parce qu'il est dissonant. Il utilise Stockhausen. Est-ce qu'on entend le Diabolus in Musica dans Licht?
Alors, il l'utilise, mais pas pour cette symbolique-là. Mais effectivement, ça, c'est un intervalle qui est utilisé pour symboliser le diable, plutôt dans les musiques médiévales, et puis on va retrouver ça aussi dans la musique romantique. On appelait ça la quinte du loup aussi.
Qui a décidé que c'était interdit?
En fait, en vrai, on ne pouvait pas l'utiliser, cet intervalle-là, tellement il sonnait faux, parce que dans les tempéraments anciens, il y avait certains intervalles qui marchaient bien, d'autres moins bien, et celui-là ne marchait vraiment pas du tout.
On est ici dans l'église. Et vous avez quel rapport à la religion, Maxime Pascal? Est-ce que vous avez été élevé dans la religion? Souvent, les musiciens ont appris la musique à l'église. Ils chantaient dans le chœur de l'église. Aux États-Unis, c'est au gospel, par exemple. Les chanteurs pop en Angleterre ont tous été à la chorale de l'église.
Alors, moi, j'ai reçu une éducation profondément athée de par mes parents. En revanche, ma porte d'entrée vers le monde de l'église, ça a été l'art. Toute la musique d'église, du répertoire de Bach, Mozart, Beethoven, Messiaen, j'ai un rapport à ça qui est dont l'essence est profondément artistique, en fait.
Dans cette église Saint-Jacques-Saint-Christophe, on a envie d'écouter quoi, Maxime Pascal?
Ce qui serait très beau, c'est de diffuser de la musique médiévale. La messe de Notre-Dame de Guillaume de Machaut, par exemple. Ça serait bien.
Bon choix.
Ouais, ça serait très bien.
Thank you. Ça vous a fait un truc, Notre-Dame?
Oui, ça.
L'incendie de Notre-Dame.
En fait, moi, j'ai beaucoup pleuré quand, parce qu'en bon après, moi, j'habite au bord du canal, donc en fait, j'ai vu sur Notre-Dame voir
le brasier,
voir le l'incendie dans la ville. Ça m'a donc peut-être c'était très très traumatisant, mais bon, enfin moi, ce qui m'a bouleversé, c'était déjà l'œuvre d'art qui est détruite. Enfin, c'était ça surtout moi quand je disais. Le monde de l'église, moi, c'est le monde de l'art. Et tous les gens qui travaillent sur les vitraux, sur les cloches, sur l'orgue, la perte d'un instrument, parce que même si l'orgue a été sauvé, l'orgue est un instrument lieu, le corps de l'instrument, plus son vaisseau acoustique. Donc en fait, quand le vaisseau acoustique est détruit, il peut rester l'instrument, mais en fait, Notre-Dame est un instrument.
Reste un instrument orphelin de son acoustique.
Bah oui, et donc toute cathédrale est un instrument. Donc
c'est en fait, un corps vibrant.
Voilà, c'est ça. Donc la disparition aussi d'un instrument, en fait, dans un sens, ça c'était un peu éprouvant. J'ai fait le lien entre le caractère éphémère de l'art, enfin que en fait que l'œuvre d'art, que l'art est comme le vivant, c'est-à-dire éphémère.
Inflammable.
Ouais, c'est ça. Puisque l'art est né avec l'humanité, c'est-à-dire que l'art prendra fin avec l'humanité aussi, en fait. Et de la même manière que les compositeurs des années 80, 70-80 ont tout à fait compris ça en traitant le son comme un être vivant. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur ces musiques-là aussi, parce que ils ont montré que le son avait une naissance, une vie et une fin, comme un être vivant. Et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup travaillé sur les paramètres que sont l'attaque du son, la résonance, qui est la vie du son, et l'extinction du son, qui est sa mort.
Hop.
Okay, c'est là. Et voilà. Bonjour, bonjour.
On va au 22 boulevard Henri IV. Allez, on est dans le taxi.
Donc, on va où maintenant, en fait, Maxime Pascal?
Alors, là, j'ai une répétition avec le chœur de la garde républicaine. Donc, on va à la garde républicaine.
Oh, carrément.
Le chœur de la garde républicaine a la particularité d'être un chœur d'hommes.
Et est-ce qu'il y a des chœurs de femmes?
Que de femmes?
Il n'y a pas de, à ma connaissance, il y a des chœurs de jeunes filles. Les chœurs de femmes, je ne connais pas, non.
Voilà une chose à inventer.
On peut faire des chœurs de femmes, ça c'est une très bonne idée.
Est-ce que vous pensez, Maxime Pascal, que l'orchestre est le reflet, une forme de reflet de la société?
C'est une institution et ça vit comme une institution. Ça évolue pas très vite et surtout c'est conçu pour reproduire des modèles, c'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment vocation à évoluer. Mais comme la société évolue, l'institution évolue. C'est la même chose pour toutes les institutions.
Qu'est-ce que vous avez changé, vous, Maxime Pascal, justement, dans cette institution un peu figée de l'orchestre? Qu'est-ce que vous avez apporté comme évolution, comme modification liée à notre époque?
En art, c'est difficile de parler de nouveauté. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'avec le balcon, donc notre compagnie, notre orchestre, on a fait évoluer le geste de l'orchestre symphonique dans un sens un peu inexploré, qui est la question de la sonorisation des instruments. Puisqu'on sonorise tout ce qu'on joue, et on sonorise tous les instruments et toutes les voix. Donc le principe, c'est qu'il y a un micro par instrument, il y a un système de diffusion qui est conçu en fonction des pièces qu'on joue, et donc qui change en fonction de ce qu'on joue et qui est déployé tout autour du public. C'est-à-dire que les ingénieurs du son, les informaticiens, la guitare électrique, sont des membres de l'orchestre au même titre que le violoniste, le hautboïste.
Donc vous avez mis un peu de rock'n'roll aussi dans l'idée de l'orchestre.
Oui, ça fait partie des générations qui peuvent l'assimiler comme étant complètement, faisant partie
intégrante,
voilà, intégrante. Exactement.
Vous dirigez sans baguette?
Tout à fait.
Alors on peut se demander à quoi ça sert la baguette, à part donner de la prestance et faire un petit côté je suis magicien, je suis grand Manitou, j'ai une baguette.
Bah, vous avez répondu à la question.
Autre question, ouais, quand même fondamentale, maintenant qu'on a dit que la baguette, ça servait à rien. Est-ce que le chef, ça sert à rien? À quoi ça sert un chef d'orchestre?
On pourrait dire en fait que le chef, ça sert à rien. Juste, c'est important de se poser cette question-là parce que l'orchestre peut jouer sans le chef. Donc aujourd'hui, n'importe quel orchestre peut jouer n'importe quelle partition sans chef d'orchestre.
Il y a du reste l'orchestre des dissonances.
tout à fait.
Qui n'a pas de chef.
Qui n'a pas de chef, donc qui joue très bien sans chef et qui joue des partitions, une littérature parfois très difficile, comme Daphnis et Chloé, Le Sacre du Printemps, et qui le joue très très bien sans chef. Le chef n'est pas indispensable en tout cas. Donc le chef aujourd'hui, il est là déjà pour gagner un peu de temps.
Je croyais que vous alliez dire pour gagner un peu de thunes.
Pour gagner un peu de thunes, pour que les chefs gagnent un peu d'argent, du coup c'est pour ça.
C'est rigolo,
ouais. Ouais, ça aurait pu être une réponse. En tout cas, c'est pas parce que les instrumentistes peuvent jouer sans chef que ça n'en est pas moins très difficile. Il y a certains trucs qui sont très difficiles à jouer. Le rôle du chef, c'est d'aider les instrumentistes en, ça peut être bête, hein, mais déjà en leur donnant les départs, en leur, les aidant, sinon ils, enfin voilà, ça peut évacuer, ouais. Ça peut évacuer du stress, ça peut, donc en fait, en termes de confort, le chef peut aider à être dans les meilleures conditions pour donner ce qu'ils ont à donner le mieux possible. Donc ça peut être une couleur, ça peut être une atmosphère, ça peut être, et c'est là que aussi le chef est utile parce que ces phénomènes sont au-delà des mots,
des perceptions, ouais.
Des perceptions très profondes. Que le chef peut
insuffler,
exactement donner et peut montrer, le chef peut montrer à l'orchestre tout ce qu'il faut écouter, ce qu'il faut écouter pour que tout le monde soit à l'écoute et exactement sur la même longueur d'onde à ce moment-là pour montrer et raconter exactement la même histoire.
On arrive devant l'Opéra Bastille, on est place de la Bastille.
Tout à fait.
Je ne suis pas très fan, moi, de cet opéra et ni de son acoustique d'ailleurs.
Ouais, ouais, et ben il y a beaucoup de gens qui disent, enfin beaucoup de gens, j'ai souvent entendu dire ça. Moi, je suis pas du tout d'accord. Je trouve que ça sonne hyper bien.
Vous avez dirigé vous là,
ouais,
à Bastille.
Moi, j'ai dirigé plusieurs fois ici, ouais.
Et quelle est la pièce que vous rêveriez de diriger? Votre pièce rêvée à...
Il y a tout un tas d'œuvres que j'aimerais diriger. Ça varie un peu en fonction des moments. J'ai très envie de travailler sur toute l'œuvre de Debussy, d'un compositeur qui s'appelle Gérard Griset aussi, qui est un compositeur extraordinaire et dont j'aimerais bien jouer toute l'œuvre aussi.
Si on se mettait un petit Debussy là, par exemple, on mettrait lequel?
Allez, on se met un petit Debussy. Ben, on se met un extrait de Péléas et Mélisande, de l'opéra Péléas et Mélisande.
Lequel?
La scène de la tour, la séquence où Mélisande est tout en haut de sa tour, donc c'est le début de l'acte 3. Mes beaux cheveux descendent tout le long de la tour, mes beaux cheveux vous attendent tout le long du jour, et donc elle attend Péléas en peignant ses cheveux qui vont tomber sur lui. On va descendre là, encore un peu plus loin, pardon, c'est un peu plus loin. Je vais devoir courir, je suis vraiment désolé, on est en retard. Ici, voilà, ici.
Donc là, on y est, devant les grilles de la garde républicaine. Terrain militaire, défense d'entrée.
Bonjour. On vient pour la répétition du chœur. C'est bon? Tu sais où c'est ou pas?
Salut, ça va.
Tu sais où c'est? Allons-y.
Bon. Donc là, ils vous attendent tous.
Et là, ils m'attendent tous. On est un peu en retard, donc on va se dépêcher. Et là, donc il y a les chevaux là qui sont ici. C'est très beau ici. Il y a des chevaux partout, c'est incroyable. Là, vous allez avoir à gauche le manège ici là.
Ah oui. Il y a des charrettes avec du foin. On a l'impression d'être dans les écuries du roi. Très beaux escaliers en bois. Bonjour, excusez-moi, c'est ma faute le retard.
On va reprendre du coup là où on s'est arrêté la dernière fois. Tu peux nous jouer les notes Donc les basses 1, ça il faut que ce soit chanté, la note que vous voulez sur un registre parlé. Le faites pas trop grave pour que ça soit bien, bien sonore quand même. Par exemple entre to, ti, il faut que ça s'enchaîne. To, ti. on entend « e tutti li » et puis « uomini », ça doit s'enchaîner. Et « questo » aussi et « mondo » aussi. Sur le ré. «
tutti
li
uomini questo
mondo ».
Super. Très vite, les sons des basses 2 se mélangent avec les sons des basses 1. Quelque chose dans le registre parlé, et peut-être qu'il bouge un peu. Allez, oh, to, ok. Pour que ça ne se mélange pas avec le son chanté des basses 1.
Allons-y.
À la dérive, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dimanche prochain pour la dernière de la saison. Oh, mais pour vous consoler, vous pouvez aller voir Samstag aus Licht, qui sera donné à Paris les 28 et 29 juin à la Philharmonie. À la dérive, c'est Aurélie Spez au micro, Bertrand Chameton aux manettes et en podcast sur nova.fr. À dimanche prochain et d'ici la bonne balade à tous sur Nova.
Trop.